auditeurs. Caroline Toussaint.
Bonsoir. Une journée de grande fête aujourd'hui au Royaume-Uni. Le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés. Une cérémonie moderne qui a mélangé la culture britannique du prince et les origines américaines de la mariée. Tout savoir sur les ponts. Une exposition se tient actuellement au Musée Jurassien d'Art et d'Histoire de Delémont. Elle propose de découvrir toutes les étapes de la construction d'un pont et promeut le métier d'ingénieur auprès des jeunes. Un grand défi attend l'équipe de Suisse de hockey sur glace aux Mondiaux de Copenhague. Battre le Canada ce soir dès 19h15 pour accéder à la finale. Toujours en hockey sur glace, le HC Bienne a recruté un gros poisson en la personne de Damien Brunner. Un ciel changeant, mais la météo devrait rester calme. Cette nuit, le soleil sera au rendez-vous demain dans la journée, même si quelques orages pourraient sévir dans l'après-midi. Ils se sont dit oui. Le prince Harry et sa promise Meghan Markle se sont mariés plus tôt dans la journée. La messe s'est tenue à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor devant 600 invités. Dans les rues, des milliers de Britanniques heureux venus célébrer ce mariage tant attendu. Les précisions de notre correspondante au Royaume-Uni, Muriel Jones.
C'est un couple princier désormais marié et femme qui est allé saluer en carrosse ouvert à travers les rues de Windsor, tous les fans massés depuis des heures pour suivre la cérémonie. Une cérémonie rondement menée, conduite par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Les mariés se sont dit « I will » et ont échangé leurs vœux. Harry en uniforme noir et gants blancs, Meghan dans une robe blanche dessinée par une couturière britannique mais de la maison française Givenchy, à la fois moderne, simple et élégante, aux épaules légèrement dénudées. Touche personnelle des époux durant ce service très traditionnel, l'adresse principale a été confiée à Michael Curry, un pasteur afro-américain, fervent orateur qui a prononcé un sermon enflammé, accueilli par l'assistance avec des sourires médusés et beaucoup d'étonnement par la reine, peu habituée à autant de mise en scène. Après ce moment inédit dans l'histoire des mariages royaux, on a aussi entendu une chorale gospel interpréter la chanson populaire Stand By Me avant que ne s'achève le service. Et tandis que les inconditionnels de la monarchie vont continuer à profiter de cette très belle journée ensoleillée dans les rues et parcs de Windsor, les mariés, eux, vont avec leurs invités pour suivre leurs agapes dans le grand hall du château.
Et parmi les moments les plus attendus aujourd'hui, la découverte de la robe de la mariée. Meghan allait-elle faire un faux pas en choisissant une robe décolletée? La tenue serait-elle plutôt ivoire ou blanche immaculée? Tous les yeux étaient tournés vers elle. Quand elle est sortie de sa voiture, on a pu découvrir une robe blanche très simple, à encolure bateau et manches longues, ainsi qu'un voile long de 5 mètres. Pour Stéphane Bonvin, consultant mode pour différents médias suisses, Meghan Markle a fait tout juste et sa robe était un moyen de faire passer un message.
Comme elle est très très simple, elle dit « regardez-moi » au lieu de dire « regardez la robe ». Elle ne dit pas « regardez comme je suis riche, regardez combien je suis arrivée, regardez comme je suis la petite américaine qui rêvait d'une princesse ». Elle dit juste « je suis moi, je suis naturelle et malgré tout je respecte la tradition ». Le long du voile, il y a 53 fleurs qui sont brodées et comme toujours c'est dans ce genre de détails que se cachent les messages. Les 53 fleurs correspondent aux 53 états du Commonwealth, grosso modo, c'est les états, ce qui reste de l'Empire britannique, pour faire simple. Hein. Et il y avait une sorte de petit message là derrière en disant, voilà, je suis quand même dans une Grande-Bretagne qui a une grandeur passée, et je le rappelle par les dates de ce voile.
Du côté de l'Espagne maintenant, le nouveau président de Catalogne, Quim Torra, a formé son gouvernement aujourd'hui. Il compte deux anciens ministres emprisonnés et deux autres exilés depuis la tentative de sécession avec l'Espagne. Mais Madrid pourrait bloquer cette décision. Le gouvernement espagnol conserve en effet la tutelle sur cette région. Un cycliste blessé à la Neuveville. Un accident s'est produit sur l'A5 hier soir. Les circonstances sont encore difficiles à établir selon la police cantonale bernoise. Selon les premières informations, une voiture, un véhicule de livraison et un vélo circulaient sur la voie d'accélération en direction de la Neuveville quand l'accrochage s'est produit. La voiture a alors renversé le cycliste. Ce dernier souffre de graves blessures et a été transporté par un hélicoptère de la Rega à l'hôpital. La police cantonale bernoise lance un appel à témoins pour tenter de clarifier les circonstances de l'accident. Vapoter plutôt que fumer. Le phénomène a connu un boom il y a quelques années et est devenu tendance. Des millions de personnes ont troqué la cigarette classique pour une cigarette électronique. Elle permettrait entre autres d'arrêter de fumer. La VapCon, une exposition sur la vape, se déroule ce week-end à Bienne, au Palais des Congrès. Cet après-midi, des experts ont échangé avec le public sur le sujet. Parmi eux, Ricardo Poloza, professeur de médecine à l'université de Catane en Italie. Nous lui avons demandé si le fait de vapoter était moins nocif que de fumer une cigarette traditionnelle. On écoute sa réponse.
Des acteurs importants comme par exemple la santé publique en Angleterre indiquent que la cigarette électronique est au moins à 95% moins nocive pour la santé que la cigarette. Je pense donc qu'il est très rassurant pour les gens et pour les vapoteurs de savoir que ces produits sont immensément moins nocifs, bien qu'ils ne soient pas complètement sans risque.
Des propos recueillis par Anastasia Lirti et traduits par Bertrand Boya. On rappelle que des études affirmant le contraire existent aussi. La communauté scientifique est divisée sur le sujet. Un pont, c'est tout. Le musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont s'est associé avec la section Jura-Bernois de la SIA, la Société suisse des ingénieurs. Ensemble, ils proposent une exposition sur les ponts conçus par la SIA Vaud. Les visiteurs découvrent alors comment se construisent ces grands ouvrages, de la phase de conception au calcul jusqu'à la construction. Principalement adressée aux enfants, cette exposition cherche à faire connaître le métier d'ingénieur. Les classes sont invitées à visiter les lieux. Jeudi après-midi, c'était une classe venue de Vermes qui s'est intéressée au pont Arc, au pont suspendu et autres édifices. Reportage.
Le viaduc de Chillon, vous connaissez le viaduc de Chillon? Ça vous dit quelque chose?
Ah oui.
Ouais. Ça vous dit rien du tout?
Bernard Studer, je suis ingénieur géomètre au bureau Eschmann à Courandel.
Alors ici, on est dans une exposition un peu particulière sur les ponts. C'est principalement pour des enfants. Qu'est-ce que ça peut leur montrer?
Alors c'est pour leur expliquer un peu les enjeux qui sont liés à la profession d'ingénieur, leur montrer un peu les différentes facettes du métier, en illustrant tout ça avec des exemples concrets d'ouvrages qui ont été réalisés récemment dans la région, comme le viaduc du Krejna ici, ou d'autres ouvrages réalisés ailleurs en Suisse, ou même il y a le modèle de pont de Da Vinci où les enfants peuvent s'amuser, essayer de le construire.
C'est un domaine quand même compliqué pour des enfants qui ont, je pense, une dizaine, douzaine d'années. Comment on leur explique, comment on rend ça concret?
Cette exposition, elle a été développée par nos collègues de la SIA à Vaud, et elle s'inspire d'un livre qui s'appelle « Ingénieuse Eugénie », qui a été élaboré d'abord pour essayer de recruter des jeunes filles pour la profession d'ingénieur, parce que c'est vrai que ce n'est pas une formation ou un métier qui attire forcément les filles. Donc c'est parti de là. Et puis il y a des aspects plus didactiques et plus de jeux où les enfants peuvent essayer, peuvent visualiser sur des ordinateurs les effets de la traction, de la compression sur un ouvrage.
Ça, ça va là. Comme ça. Ça, comme ça.
Comment tu t'appelles?
Odin.
Odin, tu es en train de construire un pont parce que vous avez visité avec ta classe de 8e Armoise, c'est ça?
Ouais.
Vous avez visité une exposition sur les ponts. Et donc là, tu es en train de construire un pont avec des poutres en bois. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce qu'il faut faire?
Ben, en fait, avec ces poutres, on doit faire un pont de Léonard. Donc, il faut les mettre un peu par-dessus, je ne sais pas trop comment. Et puis, à la fin, ça doit tenir. Et puis, c'est censé être un peu arrondi. Et puis, pour donner un exemple qui n'est pas du tout possible, si on le posait, par exemple, sur un gouffre, il tiendrait. Avec les deux côtés qui appuieraient sur le bord du gouffre, ça tiendrait.
Et donc là, il faut suivre un plan. Est-ce que ça te paraît compliqué? Parce que c'est des dessins qui sont donc à plat, hein. On ne voit pas de relief sur les dessins. Est-ce que ça a l'air compliqué?
Disons que les dessins, pour créer... En fait, ça m'a l'air simple. Le truc, c'est que pour faire tenir, c'est plus compliqué.
Vas-y.
Il y a quelqu'un qui peut venir mettre à plat?
Il y en a qui peut venir le tenir ici, peut-être.
On voit aussi qu'il y a des exemples de ponts, le pont de Léonard de Vinci, qui sont des modèles de ponts finalement très anciens. Est-ce que pour les ponts actuels, on se base encore sur ces anciens ponts ou au contraire, on a fait des avancées?
Alors oui, il y a eu des avancées au niveau des matériaux, mais certains principes demeurent, les principes du pont Arc. Voilà, il y a les phénomènes de traction, de compression, c'est des éléments qui existent toujours. Les principes sont toujours identiques. Par contre, l'ingénieur a trouvé des nouveaux matériaux, a trouvé des nouvelles méthodes de calcul qui ont permis d'affiner certains ouvrages, d'augmenter les portées, d'augmenter les hauteurs, les travées. Et puis, c'est une recherche perpétuelle pour essayer d'optimiser, de réaliser des ouvrages toujours plus beaux et puis toujours plus performants. Et c'est ça le but d'un ingénieur.
L'exposition est visible jusqu'au 27 mai au musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont.
Sport.
Le nom du premier finaliste des championnats du monde de hockey sur glace est connu, Bertrand Boya.
Et oui, la Suède a gagné 6-0 face aux États-Unis en demi-finale à Copenhague cet après-midi. Les Suédois affronteront demain soir en finale le lauréat de l'affiche entre la Suisse et le Canada. Les Helvètes affrontent ce soir la formation à la feuille d'érable à 19h15 dans l'autre demi-finale de ces mondiaux au Danemark. C'est d'ailleurs la quatrième fois que les Helvètes atteignent le dernier carré dans cette compétition après 1992, 1998 et 2013. Bilan, les Suisses n'ont passé qu'une fois cet écueil, il y a 5 ans à Stockholm. Pour rééditer pareille performance, la troupe de Patrick Fischer devra sortir le monstre canadien. Et le sélectionneur suisse est conscient de la tâche qui attend ses joueurs, Patrick Fischer.
C'est clair, ils sont forts. Quand ils jouent les matchs comme ça, KO Games, ils sont super agressifs. Ils veulent gagner toujours, c'est clair. Et c'est la mentalité d'eux et on doit être prêt. Mais aussi, nous, on doit avoir la mentalité juste, jouer avec confiance et oui, respecter mes patrons.
Tout l'effectif du Canada, à une exception près, est composé de joueurs de NHL, dont le phénomène Connor McDavid, un prodige de 21 ans, auteur de 106 points en 82 matchs de saison régulière en NHL. Il compte 16 unités à son compteur depuis l'entame de ses joutes. Mais selon le coach vidéo de l'équipe de Suisse, il n'y aura pas de plan spécifique pour contrer Connor McDavid. Les précisions de Benoît Pont.
On prépare l'adversaire à fond, que ce soit leur gardien, que ce soit leur jeu à 4 contre 5, leur jeu à 5 contre 4, leur jeu à 5 contre 5. Et McDavid, il fait partie de toutes ces phases de jeu-là. Donc c'est clair que les joueurs, ils vont le voir la vidéo, ils vont voir ce qu'il aime faire, les tendances, les jeux qu'il aime faire, notamment sur le power play où il est très présent. On sait que c'est un joueur aussi qui est très rapide, donc c'est dur à ajuster son gap par rapport à des joueurs qui viennent à 200 à l'heure comme lui. Et peut-être ça traverse un peu l'esprit, dire « Oh, je joue contre McDavid », mais finalement, on a des très bons joueurs de notre côté.
Du côté des joueurs helvétiques qui se sont isolés hier lors du jour de repos, la détermination est le maître mot. Avant cette partie, on écoute à ce sujet Gaëtan Haas.
On sait qu'on a une équipe qui joue du hockey et qui peut faire des gros résultats parce qu'on l'a vu en phase de groupe, on n'a pas été récompensé. On l'est et je pense que c'est vraiment un groupe qui est soudé et qui va être dur à battre.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial au Danemark, Mathieu Germanier. Suisse-Canada, demi-finale du championnat du monde de hockey sur glace, c'est à 19h15 à Copenhague. Toujours en hockey sur glace, le HCBN a déniché un gros poisson. Le club zélandais de National League a engagé Damien Brunner pour 2 saisons. L'attaquant de 32 ans arrive en provenance de Lugano. Sous contrat avec le club tessinois jusqu'en 2019, il a toutefois été libéré par le HCL. L'international helvétique va notamment débarquer dans le Zélande avec comme expérience 135 rencontres de NHL avec Détroit et New Jersey. Le HCBN a dû casser la tirelire pour s'offrir un des tout meilleurs joueurs suisses du championnat. Le directeur sportif du HCB, Martin Steinegger.
C'est clair qu'un joueur comme ça ne vient pas pour un petit salaire ou pour un salaire moyen, mais je crois que c'est tout le monde qui a fait un effort, c'est nous, Damien, et je pensais aussi Lugano à la fin que c'était faisable, et puis nous on est très contents qu'il est chez nous.
Est-ce qu'avec son engagement et ses répercussions financières, il va prendre la place d'un joueur étranger?
Non, ce qui est clair maintenant, c'est 100% sûr qu'on va engager un défenseur étranger. Et puis ce qui est aussi clair, qu'on va commencer avec 4 étrangers depuis la saison. Et puis s'il n'y a pas de blessé longtemps d'un joueur étranger, qu'on va rester plus longtemps que possible avec les 4. Mais tout le reste, ça va voir dans les prochains jours.
Mais est-ce que justement, en raison de la venue de Damien Brunner, est-ce que la masse salariale dédiée à la première équipe du HCBN, elle va augmenter pour la saison prochaine?
Oui, alors ça va augmenter un petit peu, mais je ne vais pas dire des chiffres maintenant. Ici, on a eu des discussions avec Damien, avec les conseils d'administration et puis... C'était faisable à la fin et sportivement, je suis très content. Et puis, on a pu prendre ce risque-là aussi financier et ça va nous aider.
Destin identique pour les 2 équipes jurassiennes en Première Ligue de football cet après-midi. Les SR de Lémont ont fait match nul 1-1 à domicile face à Langenthal. Timothy Müller a égalisé pour les jurassiens à la 73e minute de jeu. Au classement, les SRD figurent toujours dans le ventre mou du classement au 8e rang à une journée du terme de la saison. De son côté, Basse-Cour est allé partager l'enjeu 1-1 également, mais sur le terrain de Münzingen. Mevludin Kuskic a ouvert le score à la 21e minute de jeu. Le FCB se situe toujours au-dessus de la barre à un match de la fin du championnat. Les Jurassiens disposent d'une unité de plus que leur rival direct Surzé. Tout se jouera donc le week-end prochain pour la troupe d'Anthony Siroufo. Toujours en football, mais en deuxième ligue interrégionale, le leader Bienne s'est imposé 4-1 sur la pelouse de Pristina Berne. But de Djeladzi par deux fois, Mourel et Safari. Le FC Bienne dispose toujours de 2 points d'avance sur l'Istal, alors qu'il en reste 9 en jeu d'ici la fin de la saison. Et oui, parce que sur le terrain de ce dauphin balois, le FC Moutier a perdu 3-2. Loïc Schmid et Gary German ont trouvé la faille pour les Prévotois en toute fin de match. Au classement, le FCM reste pour l'heure à la 6e place. Toujours en football, les premiers titres de la Coupe jurassienne ont été remis aujourd'hui à Courtelary. En junior D, Otageois a gagné la finale sur le score de 2-1 contre Porrentruy. Chez les filles, le sacre est revenu au FC Groupement Féminin Vallée. Les Vadaises ont laminé Fontenay 7-0. Dans la catégorie des juniors C, Delémont a triomphé en s'imposant 5-3 contre Bure. Et en junior B, Courandelin a enlevé la Coupe jurassienne 2018, succès 4-2 face à l'US Boncourt en finale. Deux matchs. La finale des juniors A et des seniors ont encore lieu en fin de journée dans le Jura bernois. Les autres titres seront distribués lundi à Glovelier. Rafael Nadal file en finale du Masters 1000 de Rome. Le joueur de tennis espagnol a battu Novak Djokovic en 2-7, 7-6, 6-3 en demi-finale cet après-midi en Italie. Le numéro 2 mondial affrontera demain en finale Alexander Zverev ou Marin Cilic. Steve Guerda est monté sur le podium cet après-midi en France. Le cavalier jurassien a fini 3e du derby du CSI 5 étoiles de la Baule en saut d'obstacle. Il montait son cheval Venard de Cérézy. Il a écopé de 4 points de pénalité. Il a échoué à 4 dixièmes du 2e rang, occupé par le français Harold Boisset. La victoire est revenue au Colombien René Lopez. A noter que le jurassien Alain Jouffert s'est classé 15e du concours avec sa monture Samira 368. Il a commis 25 points de pénalité.
La nuit devrait être calme et sèche, ce qui annonce une journée ensoleillée pour demain dimanche. Mais des orages ne sont pas à exclure dans l'après-midi. Côté température, on prévoit 20 degrés en plaine et 15 à 1000 mètres. Très bonne soirée à tous.